7-9.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 octobre. Bonjour Christelle Robière.
Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, deux navires anglais arraisonnés en baie de Seine. La France veut défendre ses pêcheurs, obtenir plus de licences de la part des Britanniques pour ne plus nager en eau trouble. Les autres titres, Christelle.
Éric Zemmour osera-t-il annoncer sa candidature depuis Colombey des deux églises le 9 novembre? Cette option fait bondir les gaullistes historiques. Une mise en orbite vers un monde parallèle, Facebook doit changer de nom aujourd'hui pour mieux coller à son développement futur, celui du métavers. Au procès du 13 novembre, les derniers témoignages des parties civiles aujourd'hui avec l'audition des présidents des deux principales associations de victimes. Le tabac et le pétrole, même combat, les géants du pétrole ont menti, comme ceux du tabac en leur temps sur la nocivité de leurs produits. Ils seront entendus par le Congrès américain aujourd'hui.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50 avec vous Alexandra Ben Saïd.
C'est la ministre du Travail, alors le chômage baisse, pour qui et est-ce que le gouvernement considère qu'il peut mettre en œuvre les deux dernières mesures de sa réforme de l'assurance chômage, sur la dégressivité, sur les conditions d'accès? Réponse avec Elisabeth Borne en direct dans ce studio à 7h50.
Et à 8h20, nous nous retrouvons pour le grand entretien de la matinale avec le maire de Béziers, soutien de Marine Le Pen, Robert Ménard. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. Les mesures de rétorsion n'auront pas attendu. Dans la guerre de la pêche franco-britannique post-Brexit, deux navires de pêche anglais ont été verbalisés cette nuit en baie de Seine. L'un des deux n'avait pas l'autorisation d'être là. Le produit de sa pêche pourrait lui être confisqué. La France exige plus de droits de licence, notamment dans les Hauts-de-France et les îles anglo-normandes. Sinon, eh bien, dès mardi, les contrôles seront renforcés et les poissons pêchés par les Britanniques seront priés de débarquer par la terre et pas par la mer. De quoi rassurer un peu les pêcheurs français du port de Boulogne-sur-Mer, Mathilde Dehimy.
Il est au plus proche des côtes anglaises, mais interdit de pêcher en eau britannique depuis janvier. Alors Stéphane Pinto, armateur boulonnais, n'est pas fâché par ces mesures de rétorsion.
Œil pour œil, dent pour dent.
C'est déjà trop tard, s'emporte le patron pêcheur. Ces mesures ne sont prises qu'à la fin des échéances, dit-il, et mes comptes d'exploitation sont déjà dans le rouge.
70% de perte d'exploitation, parce qu'on ne pêche pas en eau britannique. Voilà. Je suis un peu stressé, énervé, parce que c'est vrai que moi j'ai une entreprise, j'ai quatre familles à faire vivre. Donc si aujourd'hui les mesures de rétorsion ne portent pas leurs fruits vis-à-vis des autorités anglaises, bah, je crains fort qu'au mois de décembre, des entreprises françaises disparaissent du secteur de la pêche.
Pêcheurs boulonnais et britanniques ne se croiseront plus sur le quai si les mesures sont appliquées, avec des conséquences économiques côté français. Jean-Marc Puisseau, président des ports de Boulogne et Calais.
Les bateaux britanniques ne seront plus autorisés à débarquer du poisson dans un port terminé. Ça risque d'altérer le chiffre d'affaires d'un petit 10%.
Les poissons britanniques passeront par les camions, via le tunnel ou les ferries, avec en ligne de mire de très gros bouchons possibles à Calais. Le secrétaire d'État aux affaires européennes nous confirme en effet envisager un contrôle renforcé de tous les camions, pas seulement les produits de la mer, arrivant ou embarquant pour le Royaume-Uni.
Et dans un deuxième temps, il pourrait aussi y avoir des coupures d'électricité pour les îles anglo-normandes. Un porte-parole du gouvernement britannique dénonce, je cite, des menaces décevantes et disproportionnées. Des bovins égorgés et conscients, des fœtus de veaux servant à des prélèvements. L'association de défense des animaux L214 dévoile une nouvelle vidéo choc tournée dans l'abattoir de Cuiseaux en Saône-et-Loire qui appartient au groupe Bigard. Le ministère de l'Agriculture lance une inspection dès aujourd'hui. On y reviendra dans le journal de 7h30. Le chômage au plus bas depuis 2008, une baisse de 10% en un an. Le gouvernement se félicite de la reprise, mais il reste encore beaucoup à faire sur l'égalité femmes-hommes en entreprise. Le Sénat a adopté hier soir en première lecture une proposition de loi LREM qui prévoit des quotas de femmes au poste de direction des grandes entreprises. Et dans ce texte, un article a attiré votre attention, Agnès Soubiran, sur l'autonomie financière des femmes que l'on croyait pourtant acquise.
L'article 1 stipule que les salaires devront d'ici un an être versés sur un compte personnel ou sur un compte joint, mais plus sur le compte exclusif du conjoint pour éviter les captations de revenus. L'article 2 consacre le même principe pour les allocations versées pour congé maternité, arrêt maladie ou pension d'invalidité. Les établissements bancaires sont également mis à contribution. Jusqu'à présent, une femme, co-titulaire d'un compte avec son conjoint, pouvait se voir refuser l'ouverture d'un compte individuel. Ce ne sera plus le cas. grâce à un droit au compte individuel. Les études sur les violences conjugales ont montré que l'emprise financière était un élément de la violence que subissent certaines femmes, que le législateur dont ce texte entend donc essayer d'atténuer, alors que les femmes gagnent encore en moyenne 42% de moins que leurs conjoints.
Lui se dit ouvertement contre la parité femmes-hommes.
Oui, la parité qu'il considère comme, je cite, une insulte pour les femmes. Pour Éric Zemmour, c'est juste une question de mérite pour obtenir un poste. C'est l'une des saillies il y a quelques jours du polémiste pas encore candidat, mais il s'en rapproche. Quand franchira-t-il le Rubicon ? Le 9 novembre, date de la mort du général de Gaulle, à Colombey, les deux églises est une option envisagée, une option qui agace beaucoup dans le camp gaulliste, Anne Souhaitemont.
Habitué des provocations, Éric Zemmour ira-t-il jusqu'à lancer sa course à l'Élysée sur la tombe du général ? Si officiellement l'entourage dément, tout est sur la table, lâche un proche, une manière très politique de laisser planer le doute. Car ce n'est pas la première fois que l'ancien journaliste essaierait de doubler Marine Le Pen dans sa tentative de récupération gaulliste. Exemple, le 18 juin dernier, premier déplacement, la maison natale de De Gaulle à Lille, Éric Zemmour n'hésite pas à jouer la comparaison.
C'est assez intéressant de voir que dans les périodes de crise, le pays trouve quelqu'un qui n'est pas du tout de la classe politique, qui n'est pas un parlementaire, c'est un intellectuel, c'est un écrivain.
Osé pour celui qui défend un Philippe Pétain sauveur des Juifs français, déplore la reconnaissance par Jacques Chirac de la responsabilité de l'État dans la rafle du Veldiv, ou voit dans la résistance communiste une guerre civile contre les Français. Pierre-Henri Dumont est porte-parole du candidat à la présidentielle, Xavier Bertrand.
Qu'un tel personnage qui fait autant l'apologie du maréchal Pétain puisse se revendiquer gaulliste, c'est travestir l'histoire, c'est travestir ce qui fait le cœur de la droite française. C'est profondément scandaleux.
La semaine dernière, le maire de Nice lançait un appel à la résistance face à Zemmour, une injure au gaullisme. Christian Estrosi, effaré que certains à droite soient aujourd'hui séduits par le polémiste.
Depuis début septembre, il défile à la barre au procès des attentats du 13 novembre, des rescapés, des proches, des orphelins, dignes dans leur douleur et leur délicate reconstruction. Aujourd'hui s'achèvent les témoignages des parties civiles avec l'audition des présidents des deux principales associations qui ont joué un rôle fondamental pour plusieurs centaines de victimes directes et indirectes, Charlotte Piret.
Que ce soit Life for Paris, 13-11-15 pour celles créées à la suite du 13 novembre ou encore l'AFVT et la FEDVAC pour les plus anciennes, les associations ont tout d'abord répondu à un besoin des victimes. Se retrouver.
Dès qu'on sort d'un événement comme celui-ci, on est complètement perdu. Donc c'est vrai que les associations nous ont aiguillés dans un premier temps.
Yann, victime de l'attentat du Petit Cambodge.
Pour moi, ça a été une manière de retrouver d'autres personnes. Ensuite, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun envers toutes les personnes touchées par cet attentat du 13 novembre. Et ensuite, on se rend compte que notre parole peut aussi peut-être aider d'autres. Enfin, c'est une sorte d'entraide mutuelle.
Pour Catherine, survivante du Bataclan, outre la chaleur humaine entre les adhérents, c'est aussi une multitude d'aides concrètes qui l'ont aidé à avancer.
Life for Paris a pris une salariée exprès justement pour répondre aux besoins des adhérents. Donc que ça soit au niveau administratif, pour les démarches avec la sécurité sociale, avec le fonds de garantie, trouver des psys ou n'importe quoi qui pourrait nous aider. Et effectivement, on a eu aussi des formations juridiques pour nous préparer psychologiquement au procès.
Aujourd'hui, ces associations regroupent plusieurs centaines de victimes. Elles sont aussi partie civile au procès.
Charlotte Piret, une inspection à l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille dirigée par le fameux professeur Raoult. Le site Mediapart a révélé il y a quelques jours l'existence d'une expérimentation sauvage contre la tuberculose ayant provoqué chez plusieurs patients dont un mineur de graves complications en combinant 4 médicaments. L'agence du médicament a saisi le procureur de la République. Au Soudan, les arrestations de militants et représentants de l'opposition se multiplient. Nouveaux affrontements à Khartoum entre les forces putschistes et les manifestants bien décidés à défendre leurs barricades. L'ONU réclame un retour au processus de transition démocratique. Quel sera le nouveau nom de Facebook ? Mark Zuckerberg le dévoilera dans la journée. Et si c'était un autre monde ? Car le réseau social veut nous emmener dans un monde parallèle baptisé le métavers, contraction de méta et univers. Un monde virtuel considéré par les géants du web comme le prochain grand saut technologique. Bonjour Magali Homo.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe derrière ce mot valise ?
Imaginez faire du shopping sur la 5e avenue à New York tout en restant à la maison. Imaginez danser dans une boîte de nuit avec des amis habitant à des milliers de kilomètres de vous. On enfile un casque de réalité augmentée et une deuxième vie numérique en trois dimensions commence. On ne dira plus surfer sur Internet, mais plonger la tête la première dans un cyberespace où les interactions humaines seraient multipliées. Mark Zuckerberg imagine des espaces virtuels partagés. Il explique que la qualité essentielle du métavers sera la présence, le sentiment de vraiment être là avec des gens.
Et pour construire ce métavers, Magali, Facebook compte y mettre de gros moyens.
10 000 personnes d'ici à 5 ans en Europe. L'entreprise dit avoir besoin d'ingénieurs hautement spécialisés. Au-delà de ça, pas plus de détails. On ne sait pas quel type d'emploi ni dans quel pays ils seront localisés. Un investissement à long terme pour ce qui doit devenir, selon le patron de Facebook, le successeur de l'Internet mobile. Si l'entreprise se positionne en leader de la réalité virtuelle, elle n'est pas seule dans cette conquête d'un nouveau monde. Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite, mise aussi sur le métavers. Le studio a récemment levé 1 milliard de dollars sur les marchés. Une partie sera dédiée à développer cette technologie du futur.
Merci Magali.
Ils savaient, ils nous ont menti, un mensonge qui pèse lourd à quelques jours du début de la COP26 destinée à limiter le réchauffement de la planète.
Comme le groupe Total en France, les géants du pétrole américain savaient depuis des décennies à quel point les énergies fossiles étaient nocives. Les responsables de 4 compagnies sont auditionnés à partir d'aujourd'hui par une commission du Congrès américain et c'est une première à Washington, Sébastien Paour.
Des hauts dirigeants d'ExxonMobil, de BP, de Chevron et de Shell qui témoignent sous serment devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Les deux élus à sa tête comparent déjà l'audition à celle de l'industrie du tabac en 94, quand les responsables des 7 plus grandes sociétés américaines du secteur affirment devant le Congrès qu'ils ne croient pas à une dépendance à la cigarette, tout en ajoutant qu'ils préfèrent que leurs propres enfants ne fument pas. L'histoire se répète-t-elle aujourd'hui? C'est tout l'objet de l'enquête de la commission qui doit durer un an. Les élus veulent savoir si et dans quelle mesure ces mastodontes du pétrole et du gaz ont cherché à tromper le public sur l'existence et la gravité du réchauffement climatique causé par l'homme, par des campagnes de sensibilisation ou en finançant des groupes qui nient le changement climatique. Ce sont d'ailleurs deux lobbyistes d'ExxonMobil, démasqués par Greenpeace l'an dernier, qui sont en partie à l'origine de ces auditions. Les 4 compagnies assurent qu'elles collaborent avec le Congrès. La commission répète depuis des mois qu'elles ne fournissent pas les documents demandés. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Elle va remonter sur le ring et pas pour faire de la figuration. La championne olympique de boxe sacrée à Rio, Estelle Mosley, passée professionnelle depuis, compte bien participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un défi pour cette jeune maman de 2 enfants de 17 mois et 4 ans. Mais elle vise un double sacre.
Déjà, ce serait une immense fierté d'à nouveau représenter mon pays lors d'une grosse compétition. C'est ça qui m'a fait prendre ma décision, finalement. Je me suis posé longtemps des questions. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que je vais retrouver l'envie ou pas? Mais c'est vrai que voilà, il y a eu pas mal de communications qui ont été faites. On a été pas mal sollicités aussi. Et l'envie revient. Et de se dire que c'est chez soi, bah, finalement, ça nous fait basculer et ça nous fait dire que non, il faut que je le fasse. Peut-être qu'après ça, j'arrêterai. Qui sait? Mais en tout cas, pendant ces 3 prochaines années qui arrivent, mon objectif c'est les Jeux Olympiques, c'est le doublé olympique, parce que les Jeux Olympiques oui, mais je vise l'or, je ne vise que l'or, et c'est un beau projet je trouve pour boucler une carrière.
Estelle Mosley aux Jeux de Paris, une information et une interview de Fabrice Rigobert. Enfin nul, vraiment nul, le match Nice-Marseille qui avait été perturbé par les supporters a été rejoué en terrain neutre hier à 3 à 8 clos. Résultat, match nul, un partout.
Christelle Robière, un peu désabusée oui. Pour le journal. Le zoom dans 3 minutes, les Écossais champions de l'éolien en mer.